I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lâche! Qui que tu sois, je te reconnaîtrai, car je t'ai marqué à la main. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à la Gardère ira à toi!
Jean Marais n'est pas au conseil de surveillance du groupe Lagardère, et pourtant cela ferraille sec au sein du capital du groupe de communication français, dont l'Assemblée Générale vient de se tenir en version confinée, avec un mot d'ordre, tous contre le fonds activiste Amber. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir comment Lagardère a pu contrer l'offensive d'Amber et rester encore maître de la destinée de son groupe. Le verdict est tombé mardi peu après midi, le temps de finir de compter les voix. Je vous remercie, chers actionnaires. C'est un vote sans appel. C'est félicité Arnaud Lagardère à la fin de l'Assemblée Générale du groupe dont il a hérité de son père en 2003. Lors de cet AG, l'une des plus mouvementées de l'année, les actionnaires ont voté majoritairement contre les propositions du fonds d'investissement Amber. Mais jusqu'au bout, le camp Lagardère aura tremblé. Avant cette assemblée, chacun avait fait ses comptes, à l'image des généraux qui comptabilisent leurs divisions avant de partir au combat. Côté Lagardère, on avait mobilisé le banc et l'arrière-banc de l'establishment parisien pour contrer les attaques d'un fonds activiste anglo-saxon. Au milieu des centaines d'articles sur le coronavirus, peu de sujets ont mérité un tel traitement dans la presse. Libération, Le Point, Capital, Le Figaro en ont parlé, BFM TV aussi, autour notamment de la question des dividendes.
Le fonds Amber veut frapper Arnaud Lagardère au portefeuille. Et pour ce faire, le premier actionnaire du groupe vise un objectif étonnant pour un fonds d'investissement, que le groupe Lagardère renonce aux dividendes qu'il prévoit de verser à ses actionnaires en mai prochain.
Les Échos n'ont pas dérogé à la règle, avec une douzaine d'articles consacrés à l'affaire depuis le 10 avril et écrits par Nicolas Madeleine du service Hightech Media et Laurence Boisseau du service Marché. Je les ai appelés au téléphone pour évoquer avec eux le choc Lagardère-Amber. Alors Nicolas, d'abord, on va rappeler qui est qui. Que représente le groupe Lagardère aujourd'hui ?
Alors Lagardère, c'est un groupe de 7,2 milliards de chiffre d'affaires. Il est maintenant vraiment recentré sur deux métiers. Il est troisième mondial dans l'édition avec des marques comme Larousse, Grasset, Livre de Poche, Calmann-Lévy. Il édite des gens comme Musso. Il est aussi présent à l'étranger avec des maisons d'édition comme Little Brown, Grand Central Publishing. Voilà, c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires pour l'édition. Il est quatrième mondial dans le travel retail avec 4,3 milliards de chiffre d'affaires. Et il y a une spécificité qu'on lui reconnaît, c'est qu'il est à la fois présent dans ce qu'ils appellent les travel essentials, donc les petites choses dont on a besoin, ou les magazines, ces relais juste avant de voyager. Ils sont présents aussi dans le duty free et puis dans l'alimentaire, hein, voilà, qui se développe pas mal dans les lieux de vente. Ensuite, il est présent évidemment dans des marques de médias très connues en France, en particulier la radio Europe 1 et puis le JDD et Paris Match. Et il y a eu pas mal d'activités qui ont été cédées, même certaines qui sont encore en train d'être cédées dans les médias, notamment les magazines et les radios internationales. Donc c'est un groupe qui est maintenant quand même assez bien recentré sur l'édition qui rapporte de l'argent et le travel retail qui a moins de marge mais plus de croissance.
En face, il y a donc un fonds activiste. Amber, qui est-il, Laurence Boisseau ?
Amber Capital, c'est un fonds activiste qui a été fondé en 2005 par Joseph Ougourlian à New York. Et puis, ce fonds a ensuite été relocalisé à Londres parce qu'il avait pas mal d'investissements en Europe. En France, notamment, Amber Capital, il a investi dans Nexans, dans Suez, dans Solocal. En Espagne, par exemple, il a 19% dans Prisa et il est aussi très présent en Italie dans une vingtaine de sociétés. Et en fait, Amber, ce qu'il fait, c'est qu'il investit dans des sociétés qu'il considère mal gérées et dans lesquelles il cherche à influencer la direction pour créer de la valeur.
Qu'est-ce qu'on sait de son patron, Joseph Ougourlian ?
Joseph Ougourlian, il a commencé sa carrière en gérant des fonds pour la Société Générale. C'est le fils d'un neuropsychiatre et c'est le petit-fils de Joseph Ougourlian qui a été un des premiers vice-gouverneurs de la Banque Centrale du Liban. Il est diplômé d'HEC, de Sciences Po, et il a déjà son actif pas mal de succès, notamment chez Nexans en France. Il a obtenu le départ de Frédéric Vincent, qui était son directeur général. Chez Prisa, par exemple, il a obligé la société à se restructurer et à céder sa participation dans le monde.
Donc c'est quelqu'un qui connaît bien la France, hein, on peut le voir, avec pas mal d'investissements. Dans un portrait, Pierre de Gasquet l'avait appelé le cauchemar de Lagardère. Ça fait un bout de temps qu'il empoisonne la vie d'Arnaud Lagardère, Laurence ?
Un peu, oui. Amber, il est entré au capital de Lagardère en 2016. En 2018, déjà, il a tenté de faire élire deux candidats au conseil de surveillance, mais les actionnaires n'ont pas suivi. Et après cette campagne activiste un peu violente, Lagardère a déposé une plainte pour délit d'initié contre X auprès du parquet national financier. Et en fait, cette plainte visait Amber et deux autres sociétés de gestion. Bon, il est clair qu'à partir de là, les relations se sont hyper tendues entre les deux. Et depuis, Lagardère et Amber sont en guerre, clairement. Alors, ils se battent notamment devant les tribunaux. Les derniers faits marquants, c'est en octobre dernier, Lagardère a réclamé devant le juge 84 millions d'euros de dommages et intérêts à Amber en réparation des préjudices causés par une campagne de déstabilisation. Et quelques jours plus tard, Amber, qui avait saisi le tribunal de commerce, a réussi à avoir de la part de ces tribunaux une ordonnance qui oblige Lagardère Capital et Management, donc la holding personnelle d'Arnaud Lagardère, à déposer ses comptes au greffe. Bon, ça n'a pas été fait, mais en tous les cas, c'est un jugement qui a été là favorable à Amber. Et ça illustre qu'il y a vraiment une guerre devant les tribunaux entre les deux.
Nicolas, pourquoi est-ce qu'Amber s'est intéressé à ce groupe, à cette action, une ex-entreprise du CAC 40 qui a un peu disparu dans le ventre mou de la cote ?
Oui, bah, ils étaient dans le CAC 40 quand ils avaient EADS Airbus, hein, qui est une participation qui est dans une société énorme européenne. Je pense que Amber s'est intéressé à Lagardère parce qu'il a vu de beaux actifs, hein, le travel retail et le publishing, pour les raisons l'un offrant de la croissance et l'autre des marges. Et il a eu une démarche d'activiste. Alors, il aime pas qu'on dise activiste, il préfère qu'on dise actif, parce que c'est vrai que ça a un sens péjoratif en France et que lui, il estime faire un vrai travail d'investisseur. Donc, il a vu ses beaux actifs et il a identifié des problèmes qui, s'ils étaient résolus, permettraient de mieux valoriser ses actifs. Et les problèmes qu'il a identifiés, c'était qu'il y avait un manque d'alignement entre l'intérêt d'Arnaud Lagardère et celui des autres actionnaires qui conduisait, selon Amber, le groupe à vendre des actifs, à vendre les bijoux de famille pour servir un dividende parce que Arnaud Lagardère y avait un intérêt financier personnel. Donc il s'est dit que si on poussait à des changements de gouvernance, on pouvait mieux valoriser le groupe. Alors, il a commencé sa démarche en insistant sur le rôle du conseil de surveillance. En 2018, notamment, il a présenté deux candidats pour qu'il y ait un regard extérieur dans le conseil de surveillance, censé surveiller la gérance. Et puis, cette année, il est allé plus loin en essayant de changer tout le conseil de surveillance et en demandant la fin de la commandite. Et l'autre raison pour laquelle il s'est intéressé à Lagardère, c'est qu'il a vu que certains actifs concentraient énormément de charges de structuration qui pesait sur le prix de l'action, qui sous-performe et qui empêchait de donner toute la latitude possible aux autres métiers qui, eux, étaient bien orientés.
Alors, pour résumer, hein, lui, il est entré au capital en 2016, donc il s'est inquiété effectivement de la contre-performance boursière de Lagardère et également de la vente d'un certain nombre d'actifs du groupe. Il pose aussi la question, il s'interroge aussi sur la santé financière de la holding d'Arnaud Lagardère.
Oui, alors, le camp Lagardère dit c'est une obsession d'Amber. Il y a une chose qui est vraie, c'est que la contrepartie de sa position d'associé commandité gérant, c'est que potentiellement il est redevable sur ses biens propres s'il y a un problème. Et donc Le problème soulevé par Amber et Colette Neuville de l'Association des actionnaires minoritaires, c'est que Arnaud Lagardère ne serait pas en position de venir à la rescousse s'il y avait un problème financier du groupe Lagardère. Donc, il ne mérite pas la rémunération qu'il a en contrepartie de sa position d'associé commandité gérant qui lui confère un pouvoir supérieur à celui des autres actionnaires.
Oui, parce que la holding, je crois, est très endettée et finalement, la baisse des cours de bourse complique fortement la position d'Arnaud Lagardère.
Oui, une grande partie de sa dette, en particulier celle du Crédit Agricole, est assise ou serait assise sur sa participation dans Lagardère. Et donc, en plus, tout récemment, sa participation a beaucoup baissé avec le cours de Lagardère. Donc, le groupe dit « ce sont les affaires personnelles d'Arnaud Lagardère ». On n'a rien à dire sur la santé économique de Lagardère Capital et Management. Ce qui est sûr, c'est que le tribunal de commerce, en octobre, a condamné Arnaud Lagardère à payer 2000 euros par jour à Amber pour chaque jour de retard de la publication des comptes de la LCM. La société a fait appel, mais il n'est pas suspensif.
Alors, ce qui était en jeu, c'est la gouvernance de l'entreprise via donc cette commandite qui permet de diriger le groupe de médias et d'édition. Et pour qu'on comprenne bien, Laurence, c'est quoi une commandite ?
Alors, c'est une structure juridique qui est nettement moins répandue que la société anonyme. À la Bourse de Paris, par exemple, il y a 11 sociétés en commandite par action. Or, parmi elles, il y a Michelin, notamment, Hermès ou encore Bonduel. Contrairement aux sociétés anonymes, où il n'y a que des actionnaires, dans une société en commandite par action, il y a deux types d'associés. Il y a des associés commandités et des commanditaires. Les associés commandités sont responsables indéfiniment et solidairement sur leurs biens propres des dettes de la société. En contrepartie, ils ont un pourcentage du bénéfice dégagé. Et ce sont eux qui nomment le gérant de la commandite. Dans le cas de Lagardère, Arnaud Lagardère, il est associé commandité et gérant en même temps. De l'autre côté, on a des associés commanditaires, c'est des actionnaires traditionnels. Ils ont le droit de voter en AG, ils nomment un conseil de surveillance qui est censé contrôler la gérance, ils nomment les commissaires aux comptes et ils perçoivent, s'il y en a un dividende. Mais il est interdit aux commanditaires de s'immiscer dans la gestion de la société. Mais le conseil de surveillance a malgré tout la possibilité de s'opposer au renouvellement du mandat du gérant. Et ce mandat, chez Lagardère, il dure 6 ans.
Quel est l'intérêt de cette structure ?
L'intérêt de la structure, c'est qu'elle permet de dissocier le pouvoir et la détention du capital. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Arnaud Lagardère ne détient que 11% des droits de vote.
L'autre intérêt, finalement, c'est de rendre la société difficilement opéable ?
Absolument. C'est une forteresse et c'est impossible de la rendre opéable, sauf à dissoudre la société. Et ça ne peut se faire qu'avec l'accord de l'associé commandité.
Laurence, on reproche souvent aux assemblées générales des sociétés cotées de n'être finalement que des chambres d'enregistrement. Cette fois-ci, l'assemblée promettait d'être agitée. Est-ce qu'elle le fut ?
Je ne sais pas si les AG sont que des chambres d'enregistrement. De plus en plus, les actionnaires n'hésitent plus à rejeter les résolutions sur la rémunération des patrons ou sur les nominations d'administrateurs. Bon. Alors, l'AG, elle était agitée, elle n'était pas si agitée que ça, véritablement, parce que techniquement, en fait, elle s'est tenue à huis clos. Donc, il y avait Arnaud Lagardère et 3 de ses lieutenants. Donc, physiquement, il n'y avait personne à l'AG et Amber n'y était pas. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fait bien longtemps qu'en France, on n'avait pas eu une AG avec une telle bataille d'actionnaires pour prendre ou pour garder le pouvoir et avec de tels rebondissements. Et il était difficile, c'est vrai, de prévoir vraiment qui allait gagner. Chaque voix comptait, on l'a vu jusqu'au dernier moment, chaque camp a tenté véritablement de convaincre les actionnaires de voter pour leur candidat au conseil de surveillance. Et même 2 jours avant, l'AMF, donc le gendarme boursier, a dû intervenir pour que Lagardère prenne en compte des votes qu'elle n'avait pas prévu de comptabiliser. Donc oui, c'était un vrai suspense, oui, c'était une vraie bataille et on pouvait s'attendre à tout.
Deux poids lourds pour épauler Arnaud Lagardère dans son bras de fer avec le fonds Amber Capital. Nicolas Sarkozy d'abord, proche d'Arnaud Lagardère, mais proche surtout du Qatar, premier actionnaire du groupe. L'appui du fonds souverain est déterminant dans la bataille. Guillaume Pépi ensuite, l'ancien patron de la SNCF, devrait entrer au conseil de surveillance.
On vient d'entendre ce reportage de BFM Business. Arnaud Lagardère a cherché des soutiens pour contrer les appétits d'Amber et on pourrait presque dire, Nicolas, que c'était un peu Amber et contre tous.
Oui, alors d'abord il est allé chercher Nicolas Sarkozy, l'ex-président, Guillaume Pépi, l'ex-patron de la SNCF. Il les a cooptés au Conseil. Leur nomination a été validée très très largement hier en Assemblée Générale parce que Amber ne contestait pas la nomination de ces deux fortes personnalités. Je pense que ce que tout le monde a soupçonné, c'est que aussi bien Nicolas Sarkozy que Guillaume Pépi avaient des liens privilégiés avec le Qatar, hein, et que le vote du Qatar était important pour maintenir le conseil de surveillance actuel du camp Lagardère. Ensuite, il y a eu une sorte de mobilisation de place. Marc Ladret de la Charrière et Vincent Bolloré, par le biais de Vivendi, sont rentrés au capital. Là, la société Lagardère se défend totalement d'être allée chercher ses investisseurs. C'est vrai que Bolloré y est allé tout seul. Après, ça veut pas dire que Vincent Bolloré et Vivendi sont pas en position de force pour discuter maintenant.
Laurence, le fonds Amber compte, lui, sur un allié de poids, un organisme très écouté des actionnaires?
Oui. Alors, il avait le soutien, ce qui est assez rare pour des résolutions qui sont déposées par quelqu'un qui n'est pas de la société, quelqu'un qui est extérieur à la société. Il avait le soutien des agences de conseil en vote, dont les Américains ISS et Glass Lewis, et puis le français Proxinvest. Et eux, ils ont joué un rôle important dans cette bataille. Leur travail à ces proxy advisors, comme on les appelle en anglais, c'est d'analyser toutes les résolutions qui sont présentées en AG et ensuite d'émettre une recommandation de vote à destination des investisseurs. Et dans cette affaire, ISS avait recommandé de voter pour 5 des 8 candidats d'Amber au conseil de surveillance. Glass Lewis avait fait pareil. Et de son côté, Proxinvest, donc le français, lui, avait préconisé de voter pour tous les candidats d'Amber. Ce qu'on sait aujourd'hui sur l'influence de ces agences de conseil en vote, c'est que plus de 3/5 des sociétés de gestion de portefeuille françaises ont recours au service d'une agence de conseil en vote. Donc oui, elles sont influentes et ils avaient obtenu leur soutien.
Mais ça n'a pas suffi. L'establishment français sauve Lagardère de l'humiliation par un fonds activiste. C'est le titre d'une dépêche Bloomberg, lue dans toutes les salles de marché. Nicolas, c'est une défaite amère pour Amber?
C'est indéniable qu'il aurait bien aimé avoir au moins un ou deux représentants au conseil. Alors, c'était des gens qui étaient censés être des représentants indépendants, mais ça aurait probablement ouvert les débats au sein du conseil de surveillance de Lagardère pour le contrôle de la gérance. Mais il faut pas oublier que la séquence n'est pas tout à fait terminée. Et surtout, Amber est avant tout un investisseur. Il a une démarche d'investisseur activiste ou actif, comme il dit. Et si Vivendi et Vincent Bolloré montent au capital de Lagardère et prend encore 20%, ça fera monter l'action. Si Vincent Bolloré négocie, lui, contre compensation, la fin de la commandite en haut de la structure de gouvernance de Lagardère, c'est bon pour l'action. Donc, Amber peut avoir déclenché quelque chose qui va lui servir financièrement. C'est un investisseur. Son but, c'est de faire une plus-value sur son investissement. Et il y a une autre chose. Cette affaire a quand même mis Joseph Gourlian, le patron d'Amber, on the map, hein, comme on dit en anglais. Sa visibilité s'est fortement accrue avec cet épisode. Ça peut servir par la suite.
En tout cas, Joseph Gourlian semble bien avoir l'intention de continuer à jouer la mouche du coche. Interrogé par Reuters, il a exclu de vendre sa participation de 18% dans Lagardère et n'exclut pas de se renforcer. Il ne ferme pas non plus la porte à Vincent Bolloré. Si jamais il y a une opération qui se passe, je ne sais pas, je ne vais pas spéculer. Je dis juste que Vincent Bolloré et Marc Ladret de la Charrière sont des compagnons de voyage bien plus agréables pour les actionnaires qu'Arnaud Lagardère. On le voit, l'ambiance n'est pas prête de se réchauffer. On pourra en tout cas se poser la question de la façon dont aurait pu se dérouler cette Assemblée Générale des Actionnaires si elle ne s'était pas tenue à huis clos pour cause de coronavirus. On le disait, parmi les soutiens d'Arnaud Lagardère, il y a Vincent Bolloré qui contrôle les groupes Vivendi et Havas. Il n'est pas non plus réputé pour être un tendre sur les marchés financiers. Il vient de monter à hauteur de 10,6% du capital. Vivendi explique dans un communiqué qu'il s'agit d'un placement financier à long terme, témoignant de sa confiance dans les perspectives de ce groupe français. Cela n'empêche pas certains observateurs, Nicolas, de s'interroger sur sa vraie motivation.
Ce que le tout Paris des affaires, pour ainsi dire, dit, c'est que Vincent Bolloré regarde avec un certain appétit, achète le troisième mondial de l'édition, qui était d'ailleurs en partie dans Vivendi jusqu'en 2002 déjà, et qui a de vraiment très belles marques et puis des auteurs. Donc il peut réaliser une plus-value financière en étant rentré dans Lagardère à un cours très bas et en attendant si la crise du coronavirus passe. Mais beaucoup lui prêtent des intentions bien plus importantes et lui prête l'intention de regarder Hachette, voire Europe 1. Et pour cela, peut-être que il va monter au capital de Lagardère, en prendre le contrôle. On ne sait pas encore, mais on peut vraiment pas écarter cette possibilité maintenant.
Ça a donné en tout cas un suspense, vous le disiez, rarement vu dans l'histoire des assemblées générales en France. Laurence, on a l'impression que la France plaît de plus en plus à ses fonds activistes.
Alors c'est vrai, au fil des années, on a vu les activistes chasser de plus en plus en France. Depuis 2010, il y a une quarantaine de groupes français qui ont été pris pour cible. Il y a eu Danone, Pernod Ricard, Casino, Safran, Airbus, Suez, Cor, Nexans et plus récemment Vinci. Alors longtemps, les sociétés françaises avaient été à l'abri, c'est vrai, mais depuis le désengagement de l'État et puis la fin des noyaux durs à la fin des années 90, eh bien, ces sociétés ont été moins protégées. En même temps, les fonds, donc, qui sont beaucoup américains, ont vu leur terrain de chasse naturel, c'est-à-dire les États-Unis, saturés. Donc ils ont traversé l'Atlantique pour venir en Europe et ils sont venus en France. Parce qu'eux, ils ont besoin de sociétés où investir. Parce qu'en plus, ils ont de plus en plus de liquidités à placer. Parce que comme les taux sont bas, il y a beaucoup de gérants, notamment des fonds de pension, voire des fonds souverains, qui cherchent du rendement et qui placent une part de leur argent chez les activistes. C'est pour ça qu'ils ont traversé l'Atlantique, en fait.
Et ça pousse l'AMF, hein, le gendarme de la bourse dont vous parliez tout à l'heure, à agir, à réglementer ?
Oui, alors les activistes ne sont évidemment pas les bienvenus en France. Depuis le printemps 2019, la place de Paris est partie clairement en croisade pour les encadrer davantage, au risque même de porter préjudice à son attractivité. Il y a eu 4 groupes de travail, dont un à l'Assemblée nationale, qui ont fait des propositions au gouvernement pour limiter leur pouvoir d'action. Et la semaine passée, l'AMF a fait elle-même ses propres recommandations. Et notamment, elle préconise plus de transparence autour de l'entrée des activistes au capital. Et elle a même demandé au législateur de lui donner plus de pouvoir pour lui permettre de donner des ordres aux investisseurs pour qu'ils rectifient leurs déclarations publiques si ces dernières venaient à être fausses ou inexactes. Donc oui, il y a vraiment une volonté de réguler davantage les activistes en France. On ne sait pas si le gouvernement va suivre les propositions de l'AMF. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement, il n'aime pas beaucoup non plus les activistes. En février dernier, Bruno Le Maire a annoncé le lancement d'un fonds qui a été baptisé « Lac d'argent » pour renforcer les contrôles des fleurons français avec la BPI. Donc ce fonds est censé clairement protéger les groupes français contre les attaques des fonds activistes.
Merci Laurence Boisseau et Nicolas Madeleine, journalistes aux Échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée de main de maître par Willy Gann, chargé de production, d'édition et du conseil de surveillance de la story, Michel Varnet. C'était aussi une émission un peu particulière pour moi, pour Michel et pour Willy, car La Story a été lancée il y a un an. C'est d'ailleurs le 244e épisode du podcast des Échos. Je tenais d'abord à remercier Nicolas Barré de m'avoir fait confiance pour animer ce podcast. Je voulais remercier aussi Clémence Lemestre pour son écoute de tous les instants. Mais je voulais surtout remercier particulièrement la rédaction des Échos qui, depuis un an, m'épaule et prouve à chaque émission son professionnalisme et son expertise. Enfin, merci aussi aux réalisateurs qui sont passés avant Willy à La Story, Nicolas Jean, Adèle Itel, Mathias Arignon et à la première d'entre elles qui m'a poussé dans mes retranchements, Nina Hallenberg. Merci aussi à Jean-Philippe Louis et Guillaume Brégeras, présentateurs de BOM et de Take-Off. Je termine, enfin s'il y a encore du monde pour m'écouter, avec un grand remerciement aux équipes de Binge Audio et en particulier à David Carzon, ainsi qu'à ceux qu'on n'entend pas mais qui œuvrent aussi à faire connaître l'émission, Julien Péchard, Agnès Clovez et toute l'équipe des réseaux sociaux. Et merci à vous les auditeurs et abonnés de La Story, on en est à plus de 4 300 000 écoutes en un an et ça, c'est grâce à vous.